Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Mais laisse-moi chez une gueule d'atmosphère.
Voilà, musique.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais, jamais, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire de l'homme à l'orchidée, surnom donné à Georges Carpentier, boxeur légendaire du début du XXe siècle. Ce soir, c'est donc le récit d'un prolo du Nord devenu vedette des années folles, un athlète hors norme. Entre Liévin et Jersey City, voici la 34e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Tu nous prends pour des bourris ?
Oui, 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 ça papa.
Ça, c'est un excellent burger.
Winter is coming.
Cette nuit, oui, cette nuit, à Lafayette, en Louisiane, s'est disputé le championnat du monde des poids légers. C'est l'Américain Régis Prograis qui a décroché le titre, mais très franchement, ça intéresse qui aujourd'hui? À vrai dire, la boxe est un sport en jachère, et pourtant, tout au long du XXe siècle, ce sport a généré de grands héros populaires, à commencer par Georges Carpentier, mais lui aussi, en quelque sorte, est un peu tombé en désuétude. Et bien ce soir, pour raviver le souvenir de ce magnifique champion européen, deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord, elle est écrivaine et auteure du merveilleux Boxing Parade, Pascale Boenig, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez la bienvenue. Et puis à vos côtés, c'est notre précurseur à tous. C'est la première fois qu'il vient ici, il est écrivain, historien du sport, fondateur du Musée National du Sport. Je suis ravi qu'il soit là, il a 82 ans, mais c'est un jeune homme. Jean Durie, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue chez toi, Jean. Et puis avant le kit de Liévin, nous accueillerons le Golden Boy d'Angoulême, le Dominique Besnéard. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui est à l'écran ce soir?
Alors, une actrice si douce en apparence, Marie Dubois, si passionnée à l'intérieur d'elle-même.
A tout de suite. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut, Joy.
Bonsoir, Colin. Bonsoir à tous.
Alors, le programme ce soir?
Une méprise, un chat noir et l'œil du tigre.
Parfait, à tout à l'heure. Surtout, n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec un match de football, Amiens-Strasbourg, qui s'est tenu cet après-midi, 0-0, et arbitré pour la première fois en France par une femme, Stéphanie Frappard, un arbitrage impeccable cet après-midi, l'occasion de se souvenir de Nicole Petigna. Oui, qui est Nicole Petigna? Une Suissesse qui, elle, fut la première femme au monde à tenir le sifflet pour un match international entre hommes. C'était en 2003, il y a 16 ans. Il était donc grand temps que la France s'y mette. Voici le flashback.
Embarquement immédiat pour la gloire, direction la Suède. Nicole Petigna va devenir la première femme à arbitrer une rencontre masculine de Coupe d'Europe. Les hommes sont prévenus, attention à la Suissesse de 36 ans.
Ce que je trouve bien en Suisse, c'est que les joueurs et les entraîneurs, ils me prennent pas pour une femme, ils me prennent pour un arbitre. Et j'espère qu'à Stockholm, on fera comme ça, qu'on ne prendra pas pour une femme, mais pour un arbitre comme tous les autres.
Un arbitre qui a su se faire respecter en 4 ans de première division suisse. Énergique, autoritaire, elle n'hésite pas à expulser ceux qui discutent ses décisions. Mais surtout, elle est la seule arbitre que certains joueurs peuvent embrasser à la fin du match. La photo a fait le tour des journaux.
Ce jour-là, à l'issue du match, l'un des joueurs, Ronko Popovic, m'a embrassé la main. J'ai été surprise. C'est vrai que c'était un peu exubérant, mais c'était sa façon à lui de me dire merci.
Urs Meyer, son mari, prend ça avec le sourire. Le football de haut niveau, lui aussi, le connaît. C'est l'un des meilleurs arbitres au monde. Et à ce titre, il côtoie régulièrement les stars du ballon rond. Pas de quoi impressionner madame, l'ambiance surchauffée d'un stade, elle connaît elle aussi. Il y a 4 ans, elle a arbitré la finale du Mondial féminin devant 80 000 spectateurs.
Après les femmes arbitres, voici le grand régulateur. Il connaît les règles du showbiz par cœur, arbitre de la célébrité. Le monde entier le supplie pour jouer dans 10%. C'est l'heure du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie, hein.
Ce soir, Dominique, qui est-elle?
Aujourd'hui, notre vedette de l'écran est lumineuse. Elle s'appelle Marie Dubois. En ce moment, elle figure au milieu des stars et des starlettes des années 60 dans une magnifique exposition de Philippe R. Doumic, le photographe officiel d'Unifrance à l'époque et aujourd'hui injustement oublié. Marie Dubois était longtemps l'incarnation de la jeune femme jolie, mais accessible, solaire et sympathique.
Et à l'état civil, elle s'appelait Claudine Usé.
Et elle vient au monde à Paris le 12 janvier 1937, fille de Français moyen, sans histoire. Pour faire plaisir à ses parents, elle s'inscrit à la faculté de droit, mais rêve de monter sur les planches. Elle suit en parallèle les cours d'art dramatique de la rue Blanche et entre au conservatoire dont elle sort récompensée de 2 prix. Ma blondeur, mon air tendre m'ont figé dans un emploi d'ingénue alors que je suis une violente, une vraie, quelle erreur. Après une brève apparition dans le premier film d'Éric Rohmer, Le Signe du Lion, elle est remarquée par François Truffaut qui la baptise en référence à Audy Berthy, Marie Dubois, et lui offre le rôle principal féminin de Tirer sur le pianiste. Face à Charles Aznavour, la jeune femme rayonne d'une présence indiscutable et manifeste un caractère bien trempé. Sa prestation est couronnée de lauriers par la presse.
Et Marie Dubois poursuit avec Truffaut.
Oui, elle enchaîne avec un personnage secondaire dans Jules et Jim. Ce n'est que longtemps après qu'elle avouera avoir été secrètement amoureuse du cinéaste. Je l'ai aimé comme on chaparde le fruit de l'arbre défendu dans un jardin qui ne vous appartient pas.
C'est beau ça.
Estampillée nouvelle vague, malgré elle, Marie Dubois accorde pourtant ses faveurs au cinéma populaire de Verneuil, Lautner, Molinaro. Et c'est dans ce cinéma commercial qu'elle trouve des rôles plus construits. Elle est ainsi l'inoubliable épouse de Bourvil dans La Grande Vadrouille, la fille rebelle de Jean Gabin dans L'Âge ingrat ou encore la vénale Geneviève dans Le Voleur de Louis Malle.
Et c'est à 33 ans que Marie Dubois rencontre son plus beau rôle.
Oui, elle joue la magnifique Isabelle de La Maison des Bory, réalisée par Jacques Doniol-Valcroze. Selon le romancier Michel Mardor, c'est un film en porcelaine de Saxe, illuminé par la beauté solaire de son actrice, son plus grand succès personnel. La carrière de Marie Dubois se déroule alors avec une grande régularité. À quelques rares exceptions près, elle tourne dans des films ambitieux et estimables et n'hésite pas à donner leur chance à de jeunes cinéastes comme Roger Andrieux avec La Petite Sirène ou Michel Souter dans Les Arpenteurs. Elle ne refuse pas davantage des emplois pourtant risqués comme dans Beauf, ou les nus dans une vitrine, de Claude Faraldo. Marie Dubois parvient toujours à dépasser le stade de la jeune femme sans histoire et à s'insuffler une vraie profondeur à des personnages pourtant difficiles. En 1978, elle remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de femme jalouse dans La Menace de Alain Corneau.
Très jeune, elle avait dû affronter une maladie.
Oui. Elle n'avait que 23 ans quand ses premiers symptômes de la sclérose en plaques se sont manifestés. Lorsqu'ils reprennent dans les années 80, elle se voit contrainte de ralentir son activité cinématographique. En 2001, elle s'engage publiquement dans la lutte contre la sclérose en plaques en témoignant dans un film de campagne réalisé par Alain Corneau. Elle meurt le 15 octobre 2014, 7 ans après son mari, Serge Rousseau, homme merveilleux, grand agent, qui m'a fait l'honneur de me former à ce métier.
Eh bien, voici la voix de Marie Dubois.
Pour la majorité des spectateurs, je suis le personnage de François Le Champy. Je suis le personnage de La Maison des Bory, je l'ironie pas, mais j'aurais pu me laisser complètement enfermée dans ce circuit, dans ça. Et je veux dire que je voulais pas du tout être la jeune femme douce, tendre, bonne mère de famille, bonne épouse, qui quelquefois, mon Dieu, quand un jeune Allemand se présente, peut avoir une légère tentation. Mais elle résiste. Tout ça, ça m'ennuie. Je suis quelqu'un de très passionné, de très colérique, de très mauvaise foi. C'est-à-dire que les gens que j'aime, je ne veux pas qu'on y touche. Enfin, je veux dire que je peux leur dire des choses, t'as tort, t'as raison, comme ça, en tête à tête et dans les yeux. Mais devant une tierce personne, je les soutiendrai mordicus.
Marie Dubois, une actrice au caractère bien trempé et qu'on peut voir donc en photo dans cette exposition de Philippe Erdomic, ancien photographe d'Unifrance. Une très belle exposition, Dominique.
Hein, on voit beaucoup de stars et starlettes des années 60. Vous voyez tous les acteurs oubliés, bien sûr, et pas du tout. Et il y a aussi Belmondo, Delon, Brialy, et tout. C'est magnifique.
Eh bien, merci beaucoup, Dominique Besnéard. Maintenant, voici l'histoire du dimanche soir. C'est un petit gars du Nord, né au 19e siècle, fils de mineur, gamin élevé à la rudesse d'un coron. La légende raconte que tout serait né d'une bagarre dans une cour de récréation entre deux gosses dont l'un avait des aptitudes pour la boxe. Il s'appelait Georges. le petit Carpentier, destiné à devenir le premier Français champion du monde de boxe anglaise. Mais au-delà de l'athlète, il y avait l'esthète, une belle gueule, ce Georges Carpentier, et qui savait causer avec intelligence, une intelligence au scalpel, de sa technique et de son art. Le voici donc en 1966, il a 72 ans, et il expliquait aux auditeurs de l'ORTF sa science inégalée du ring.
J'ai pensé qu'en boxe, et j'ai compris cela tout de suite, qu'il fallait, pour devenir quelqu'un, ne pas prendre les coups, les éviter le plus possible, et les donner naturellement. Et je me suis évertué dans toute ma carrière à prendre très peu de coups. J'en ai pris très peu de coups. J'ai les bras relativement courts pour un boxeur. J'ai les jambes un peu trop grosses, trop lourdes, alors que généralement le prototype du boxeur est les jambes minces, les épaules très larges et tout le poids dans le haut, de façon à pouvoir faire sentir son poids sur l'adversaire. Ben, j'ai toujours eu le contraire, j'ai toujours été bâti autrement que ça. Alors il a fallu qu'avec mes moyens restreints, que j'arrive à faire quelque chose de bien dans ce métier-là. Donc j'ai étudié la boxe comme peut-être personne au monde ne l'a jamais étudié. Me suis servi de mes jambes lourdes comme défense, de mes bras courts. Je me suis servi de mes bras courts dans des positions qui n'est pas normales pour un boxeur. Je ne boxais jamais de face, je boxais toujours de profil, de façon à gagner les quelques centimètres qui me manquaient afin que mon coup arrive à destination.
Georges Carpentier, boxeur de profil. Jean Durie, je rappelle, vous êtes écrivain et historien du sport. Je suis ravi que vous soyez là, Jean, ce soir. Pour commencer, en quelques mots, comment vous pourriez présenter Georges Carpentier à nos auditeurs qui pourraient ignorer ce soir qui il a été, ce Georges Carpentier ?
Mais ignorer, c'est tout à fait logique, car cette histoire, cette aventure se passe il y a un siècle. Et si on parle théâtre, qui se souvient de Mounet Sully ? Si on parle chanson, qui était Yvette Guilbert, qui a été prodigieuse et croquée par Toulouse-Lautrec ? Et en matière de sport, si on dit le mot « Pélissier », qui a été le mot-clé pour tous les amateurs de cyclisme de l'entre-deux-guerres, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ? Alors, dire que Carpentier est oublié, je ne suis pas d'accord, bien entendu. Mais Carpentier, il faut se rendre compte que quand il meurt le 29 octobre 1975, il va y avoir à la Madeleine des centaines de Parisiens qui vont venir. Or, son grand fait d'armes célèbre, c'est le combat perdu d'ailleurs, le 2 juillet 1921 à Jersey City contre Jack Dempsey, donc c'était 54 ans plus tôt. Et ça donne une idée. Mais ça donne une idée qui est à peine celle de l'incroyable popularité qui fut celle de Georges Carpentier. Parce que ça a été, on y reviendra certainement, un boxeur prodigieux, prodigieux par sa jeunesse, prodigieux par son impact sur ses adversaires, et ensuite, vous l'avez dit, le beau gosse, le beau Carpentier, l'homme à l'orchidée, qui était reçu par le prince de Galles dans toutes les cours d'Europe, qui a été une étoile du cinéma, pas seulement en France, et on reparlera sans doute du toboggan d'Henri de Coin tout à l'heure,
absolument,
mais en Angleterre et aux États-Unis. Donc, c'était tout ça Carpentier, et il a gardé une popularité telle que quand il a ensuite tenu des bars successivement près des Champs-Élysées, rue Arsène-Houssay,
dans les années
30, ou à la Madeleine, dans les années qui mènent jusqu'aux années 70, eh bien, on venait chez Carpentier.
Eh oui,
voilà qui était très rapidement destiné Carpentier, que j'ai personnellement connu.
Ça, on y reviendra, parce que vous l'avez croisé, Georges Carpentier.
Plus
oui,
que croisé.
Oui, mais on va y revenir. Pascal Bonnic, je rappelle, vous êtes vous écrivaine, passionnée de boxe. Vous avez créé un très beau recueil qui s'appelle Boxing Parade, où l'on croise 10 grands boxeurs du 20e siècle. On pourrait commencer par peut-être lire le début de ce texte que vous avez consacré à Georges Carpentier. Je vous en prie, allez-y, commençons la lecture et allons-y.
Donc, c'est la vie de l'homme à l'orchidée. Il est beau de constater que les héros ne sont pas toujours des champions, qu'ils sont comme tout le monde, accusant des revers, des échecs et des coups. Mais au cœur de la tempête, ils tiennent debout, accros à leur croyance, plus qu'à tout. Car ce qui les fait autres, il faut bien le dire, c'est leur tempérament construit sur leur empire qui n'existe pas, mais sur lequel est réglée leur vie entière. J'en veux pour exemple l'homme à l'orchidée, le boxeur, Lisant ses exploits, vous considérerez combien fut fragile son destin, inconsistante ses peurs, insignifiant son déclin. Et comme Byron, je vais par le commencement commencer. Dans le nord de la France, paysage désolé, vient au monde Georges, dit l'homme à l'orchidée, à Liévin, près de Lens, en 1894. Ce prénom de Georges lui va comme un gant, tant il est magnifique, cet enfant. Mais très vite, il devient terrible. « Diable », disent certains, c'est-à-dire invincible dans le règne des humains.
Voilà, ça c'est le début du texte, et puis il y a beaucoup de pages qui suivent et qui racontent le destin de Georges Carpentier dans Boxing Parade chez Gallimard, l'Arbalète, la collection L'Arbalète. Pascal Bonnic, en fait, en écho à cette lecture, on sent que ce qui vous touche sans doute dès le départ de ce texte chez Carpentier, ce sont aussi ses faiblesses peut-être, non ?
Ce qui me touche dans Carpentier, c'est à la fois... le fait qu'évidemment c'est un livre qui est consacré à des stars de la boxe, à des grands boxeurs.
Mais on croise tout le monde.
On croise beaucoup de boxeurs. Il faudrait continuer, mais on croise beaucoup de boxeurs. Mais effectivement, Carpentier pose des problèmes, et il pose des problèmes dès le début, très évidemment. Le fait évidemment qu'il soit français au moment où la boxe anglaise n'est pas encore arrivée en France. Le fait qu'il commence très très jeune.
Oui, premier combat à 12 ans.
Premier combat à 12 ans. Mais ce qui est fascinant, puisqu'on parle de sa jeunesse et même on pourrait évoquer sa précocité, ce qui est fascinant finalement, c'est qu'à l'âge de 10 ans, il fait une rencontre qui va être déterminante et il sait choisir son destin. À 10 ans, il écrit sa vie. Ça, c'est quand même quelque chose qui est fascinant.
Cette rencontre, c'est François Descamps.
Donc la rencontre, c'est François Descamps, qui n'est pas du tout le coach formidable qu'on peut décrire par la suite, mais qui est quelqu'un qui est dans une, on va dire, dans l'équivalent d'une fête foraine et qui fait différentes petites attractions. Il propose à Carpentier à la fois de faire de l'athlétisme, de la gymnastique, de la contorsion, mais aussi des activités spirites. Donc c'est une espèce d'engagement pour quelque chose qui n'est pas la boxe, mais qui à l'époque inclut la boxe, à savoir la fête foraine. Mmh. Voilà. Donc cet engagement à l'âge
aussi.
De 10 ans...
Il vient de là. Mmh.
Il vient de là, et proprement stupéfiant. Et rien qu'avec ça, on peut commencer à réfléchir à la vie d'un homme.
Jean Durie, il y a deux dates importantes avant la Première Guerre mondiale, 1911-1913. Il va être d'abord champion de France très jeune, puis champion d'Europe. Je dis ça, Jean, parce qu'il faut bien comprendre qu'avant la Première Guerre mondiale, il y a un siècle, c'était déjà une grande vedette française. C'est-à-dire qu'il a impacté, c'est peut-être la plus grande vedette française à l'époque, du sport, je veux dire.
Bon, on va revenir sur François Descamps, parce que François Descamps dirigeait une salle de gymnastique qui s'appelait la Régénératrice. Et à 10 ans, comme vous l'avez dit, c'était un gamin assez turbulent, mais là, il va rencontrer celui qui sera son mentor, avec une chevelure foisonnante, avec des yeux d'asiatique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'entre ces deux hommes, François Descamps et Georges Carpentier, il n'y a jamais eu l'ombre d'un contrat signé, ce qui aujourd'hui est inimaginable, puisque tout le monde s'entoure d'appareils de juristes et d'agents et de conseils, etc. Ces deux hommes se sont dit une fois, nous irons ensemble, et ils ont été jusqu'au bout. Alors effectivement, ils commencent très tôt, ils commencent par la boxe française, c'est-à-dire celle où on se sert de la savate, du chausson, poings et jambes. Et imaginez-vous qu'à 14 ans et demi, il est déjà, mais ça ne signifie pas grand-chose, champion du monde de boxe française amateur à la salle Wagram. Et en cette même année... Il mène son premier combat de boxe anglaise dans l'arrière-salle d'un café de Maison Lafitte. Et alors, Descamps ne va pas le ménager. De 1909 à 1911, Carpentier livre 52 combats. 52 combats, alors qu'aujourd'hui, lorsqu'un Tony Yoka fait 4 combats dans une année, on pense qu'il a beaucoup boxé. Et effectivement, il va devenir célèbre. Quand, le 23 octobre 1911, à Londres, il gagne le titre de champion d'Europe contre Young Joseph, qui abandonne à la 10e reprise. Et alors là, les Parisiens et les Français commencent à se dire que, effectivement, un 29 février en 1912, à Monaco, il devient déjà champion d'Europe des poids moyens contre l'Anglais Jim Sullivan. Et c'est tout à fait caractéristique de son style, parce qu'il commence par cueillir Sullivan d'une droite au menton, et pendant que Sullivan est en train de tomber, il a encore le temps de lui donner un uppercut du gauche qui achève. Et puis alors le combat qui va être le combat clé, c'est le combat du 1er juin 1913 à Gand. Il est opposé pour le titre européen des poids lourds déjà à l'anglais Bombardier Wells. Et il y a un tel déséquilibre entre les deux hommes, Carpentier pèse 73 kilos et Bombardier Wells 92, que lorsqu'il va au tapis à la première reprise, tout le monde se lève en disant « c'est un combat déséquilibré, c'est une honte ». Et puis, tout de même, il s'accroche au deuxième round, il commence à émerger au troisième, et au quatrième, c'est Bombardier Wells qui est par terre. Il est champion d'Europe des poids lourds. Et alors là, il va être accueilli à la gare du Nord par la foule qui l'attend. Voilà pourquoi il devient célèbre. Et puis, il mène ensuite des combats extraordinaires, qui sont des combats en 20 reprises contre les Willie Lewis, Frank Close, Billy Papp, qui sont les grands Américains qui viennent en France à ce moment-là, parce que le franc or vaut très cher. Il est parfois battu, mais il va arriver à la guerre de 14 alors qu'il est aussi célèbre que les vainqueurs du Tour de France, les Lapis, Petit Breton, Faber, etc. Et même plus encore. Et puis ça va être la guerre de 14 où il va être un héros de la guerre.
Alors là justement, Pascal Boenic, en effet, Jean vient de le dire, il va devenir un héros de la guerre, il va devenir pilote et il va même être décoré de la Croix de guerre par Poincaré parce qu'il est très courageux, notamment il survole à très basse altitude les lignes ennemies. Il devient un... Alors il était champion...
Au-dessus de Verdun.
Au-dessus de Verdun, il était un grand champion de boxe français, mais il devient un héros de la Première Guerre mondiale.
Oui, alors bon, la question du, évidemment, la question du courage, il s'est engagé de lui-même et la question du courage ne se pose pas puisqu'il a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais eu peur. La peur n'est pas du tout sa question. Enfin, le courage, c'est pas non plus l'absence de peur, c'est quelque chose en plus. Donc effectivement, il va passer ses meilleures années de boxeur de 20 ans à 25 ans hors de la boxe, à faire la guerre. Alors, j'aime beaucoup la réflexion qu'a Alexis Filonenko, ce philosophe grand spécialiste de la boxe. Il dit finalement que enfin, il va vivre quelque chose à cause de sa précocité. Il a eu une vie assez étrange, assez spéciale. Et là, l'engagement dans la guerre va lui donner une maturité. Et il y a beaucoup de boxeurs finalement qui reviennent de la guerre. Je pense à comment s'appelle-t-il ce boxeur qui a eu la mâchoire, Eugène Criquy, par exemple. Je pense à des boxeurs qui reviennent de la guerre et qui opèrent une sorte de conversion. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean, mais...
Je pense que les choses sont toutes simples avec Carpentier. Carpentier ne se posait pas de questions. Il a eu son destin de boxeur, il a eu son destin d'homme. On verra qu'il a gagné énormément d'argent et qu'il a tout perdu au moment du krach de 1929. Et ensuite, il a mené sa vie. Il ne se posait pas de questions. Et donc, tout naturellement, durant les deux années où il est pilote, parce qu'ensuite il est
blessé,
il a été blessé et donc il est versé à l'école de Joinville, qui va être important. Mais le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, après cinq années d'interruption, quand il va remonter sur le ring, où en est-il ? Eh bien, très vite, on sait que quand il affronte l'anglais Joe Beckett, parce que les Anglais n'avaient pas digéré ce qui s'était passé avec Bombardier Wells, il le met knock-out en 77 secondes. Ensuite, il est appelé, et c'est rarissime, vous l'avez souligné, c'est un boxeur européen, un boxeur du vieux monde, il est appelé aux États-Unis pour une tournée où il va mêler le cinéma, il va passer dans 33 villes, etc. Et il est accusé par la presse américaine d'être un boxeur de cinéma. Mais il signe tout de même le contrat avec Descamps pour le championnat du monde poids mi-lourd et il va battre en octobre 1920 pour le titre mondial Battling Levitsky, qui n'était pas rien, 200 combats, 3 défaites, et qu'il met dehors à la quatrième reprise.
Donc il devient champion du monde de boxe anglaise, c'est le premier en France, le premier français à décrocher ce titre.
Et à ce moment-là, se profile inéluctablement la rencontre avec Jack Dempsey pour le titre suprême, le titre des poids lourds, et ça va être le match du 2 juillet 1921.
Donc ce qu'on a appelé le match du siècle à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce match, Jean?
Eh ben, on l'a appelé le match du siècle. Bon, il y en avait eu un autre. C'était le match de 1910 à Reno entre le noir Jack Johnson et le blanc Jim Jeffries, que les blancs avaient désespérément appelé après sa retraite pour qu'il sauve l'honneur de la race blanche. Et Jack Johnson n'en avait fait qu'une bouchée. Mais là, ça va être vraiment un match du siècle parce que ça oppose le vieux continent au nouveau monde. Ça oppose un héros de la guerre à Dempsey qui n'est pas allé...
Qui a échappé à la guerre.
Qui a échappé à ça, ce que lui reprochent les anciens combattants américains. Et puis, Il y a un battage énorme. Il va y avoir à Jersey City, au Tottenham, environ 100 000 spectateurs.
Incroyable, 100 000 personnes.
Et on attend vraiment ce résultat avec passion. Alors, si vous voulez, je vous dis un mot de ce qu'a été le 2 juillet 1921, tel qu'on l'a vécu à Paris.
Dites, Jean.
Alors, à Paris, tout Paris était dans la rue. Et en particulier, boulevard Poissonnière, les yeux levés vers la vitrine du journal Le Matin. Au premier étage, il allait être 20h30, il y avait un speaker qui s'appelait Georges Berétreau, qui a ensuite été célèbre pour être le speaker des 6 jours. Et voilà ce qui allait se passer, un prodige de la technique. La TSF, la télégraphie sans fil, allait faire que on saurait ce qui se passait sur le ring de Jersey City, à Paris, à la radio, avec à peu près 2 minutes de décalage. Immédiatement, un fil téléphonique spécial reliait la radio, comme si nous étions dans ce studio ici, à l'arrière-salle du Matin. On communiquait à Georges Berétreau, et Georges Berétreau faisait vivre à la foule ce qui se passait. Mais dans le ciel volaient des avions chargés de fusées vertes, si James C. gagnait, ce qui était impensable, ou de fusées rouges pour le triomphe de Carpentier. Et, tout d'un coup, Berétreau arrive et dit, la foule fait silence, deuxième reprise, Carpentier a ébranlé Dempsey. Et effectivement, il y avait eu une droite de Carpentier à la pommette gauche de Dempsey, mais pas à la pointe du menton. Et ce qu'on ne savait pas, et ce qu'on a su que bien longtemps après, c'est que Carpentier s'est fracturé le pouce de la main droite. Et à partir de ce moment-là, avec le déséquilibre de poids en faveur de Dempsey, le combat, l'issue du combat ne faisait plus de doute, et il le perd à la quatrième reprise. Et lorsque Berétreau, qui hésite, vient lire cette funeste nouvelle, un silence de mort s'abat sur Paris, et il paraît que le lendemain encore, la capitale. Donc voilà quelle était la célébrité de Carpentier, voilà ce match du siècle pour lequel, par exemple, un François Mauriac a fait un portrait de Carpentier, ce qui nous paraît aujourd'hui assez inattendu.
Pascal Voynick, allez-y,
allez-y. Si je peux ajouter quelque chose dans les deux parties qui s'affrontent, à savoir Dempsey et Carpentier, c'est aussi le combat d'un boxeur lourd, enfin très très intelligent. John Toney a dit que Dempsey était quelqu'un d'assez intelligent, mais qui s'entraîne le bras ligoté à la jambe pour pas bouger, avec un seul bras, les jambes presque immobiles, et quand même les jambes les plus mobiles et les plus légères et la mobilité la plus danseuse qu'on ait jamais vue aux États-Unis. Donc il y a aussi ce rapport de force, ce rapport de technique et ce rapport, chorégraphique, qui est très intéressant dans ce match.
Oui, rapport chorégraphique, parce qu'encore une fois, Carpentier est un danseur du ring. Bon, dans l'histoire de la boxe, il y a ceux qui se battent. Marcel Cerdan en a été un exemple parfait. Mm-hmm. Et puis, il y a ces stylistes exceptionnels, comme Carpentier.
Ou Mohamed Ali.
Comme j'allais évidemment venir, sans oublier Ray Sugar Robinson.
Oui, bien sûr.
Ces boxeurs, ce sont des génies. Et un Carlos Monzon, l'Argentin, qui était proprement intouchable, tout en se déplaçant lentement sur le ring, on n'arrivait pas à trouver la faille. Ça, ce sont les grands stylistes.
L'œil du tigre.
À l'Albert Hall de Londres, le 12 janvier 1922, pour ses 28 ans, George affronte l'Australien George Cook, champion de l'Empire britannique, qui doit venger les Bondsman Rice, Bombardier Wells, Gunboat Smith, Dick Smith et autres Joey Beckett.
Philippe Collin.
Cook n'ignore pas que George est infiniment plus scientifique et adroit que lui. Il essaie de brouiller la boxe de George. Il parvint à ses fins durant les 2 premières reprises. Mais le 3e round permet à Carpentier de prendre la mesure de Cook. Le 4e est décisif après un court crochet du gauche, un crochet du droit, le cueille au moment où il va faire connaissance avec le feutre du ring. C'est du grand Georges et toujours le meilleur en Europe.
Sur France Inter.
Georges Carpentier, boxeur surnommé l'homme à l'orchidée, en référence à cette fleur fragile qu'il arborait toujours à sa boutonnière. Georges Carpentier, devenu vedette des années folles, un homme du monde, comme il aimait le dire. Ou lui, le gosse de Liévin, le môme du Coron, devenu l'ami de Charlie Chaplin, de Rému et de Mistinguette. Lui, Georges Carpentier, pour qui Henri Decoing a mis en scène Toboggan en 1934, film dans lequel le boxeur est devenu acteur, voire conseiller au scénario, comme l'a raconté Decoing lui-même au micro de l'ORTF en 1954.
Quand vous l'avez mis en scène, Decoing, dans ce film Toboggan, est-ce que vous faisiez boxer?
Ah bah oui, c'était un film sur la boxe.
Les producteurs m'avaient demandé un scénario pour Georges Carpentier qui venait de ranger ses gants. Il était très très célèbre. Et alors j'ai écrit un film, un scénario qui s'appelait Toboggan, avec Arlette Marchal. Il y avait de la boxe là-dedans.
Oui.
Et puis aussi il y avait des scènes de comédie. Et au bout du cinquième ou sixième jour, Georges vient vers moi et me dit « Dis donc, tu trouves pas qu'il y a un peu trop de boxe là-dedans ? » On n'avait pas encore commencé la boxe. Mais on jouait la comédie, il était charmant, il jouait très très bien. Et puis alors on a continué, et puis vers le 12e, 15e jour, dis donc, les scènes d'amour avec Arlette là, eh ben, je l'embrasse jamais en somme. Hein, tu te souviens ?
C'est très juste, oui. Hein ?
Il dit, tu pourrais pas m'écrire deux, trois baisers, là, longs comme les baisers américains. Et alors le film est sorti, c'était pas un scénario extraordinaire, mais c'était gentiment fait parce que Georges était vraiment vrai, et dans la boxe, et dans la comédie.
Jean Durie, nous avons eu la chance, vous et moi, de voir ce film il y a, c'était début mars, au Festival Sport, Littérature et Cinéma à Lyon, organisé par Thierry Frémaux. Nous avons vu ce film en 35 mm, un film très intéressant où Carpentier est très très loin d'être ridicule. Il est un excellent acteur dans ce film, Jean.
Oui, alors, revenons à L'Homme à l'Orchidée. Pourquoi L'Homme à l'Orchidée ? Parce que, en 1912, il tourne pour la première fois le roman de Carpentier, à travers un très mauvais livre d'un certain Édouard de Pérodil. Et les protagonistes du film sont Berthe Bovy et Harry Bore, ce n'est pas rien. Alors, il est amoureux de la fille de son directeur, etc. Je passe sur ces péripéties. Oui, nous avons vu Toboggan. Et Toboggan, on oublie de dire que le titre initial de Toboggan, c'est Battling Géo. Géo étant une abréviation de Georges Carpentier, bien entendu. Et effectivement, nous avons vu ce film. Et nous l'avons vu avec surprise, parce que on fait souvent d'Henri de Coin, finalement, pas un réalisateur de génie, pas un carnet, pas un... Bon. Or, il a eu une grande carrière, et quand il arrive à Toboggan, il s'est déjà essayé comme scénariste avec Le Roi de la Pédale et Le Petit Parigot et l'acteur Bisco, extrêmement populaire à l'époque. Et puis, c'est son deuxième film. Il a déjà tourné un premier film qui s'appelle Les Bleus du Ciel, et voilà qu'il va tourner Toboggan. On a toujours dit que seuls les Américains savaient filmer la boxe. Nous avons été absolument stupéfaits quand nous avons
très
vu
vrai.
Enfin ce film.
Un grand
de
film
la manière
de boxe
dont Henri de Coin, qui connaissait parfaitement la boxe, parce qu'il avait été journaliste sportif à l'auto, il avait été directeur du Wonderland, qui était une salle qui organisait les combats, et donc il filme le public et les réactions du public d'une façon absolument remarquable. Les combats et le grand combat final qui va voir la chute finale du boxeur qui ne réussit pas son retour parce que l'âge est là, il le filme avec une originalité qui, pour moi, atteint largement Raging Bull.
De Scorsese.
Et ce film, il est digne de Nous avons gagné ce soir ou d'autres grands films américains. Et quant à Carpentier, effectivement, on retrouve là ce que je soulignais tout à l'heure et ce que nous disions ensemble, son élégance naturelle. Et ce rôle, il va le jouer, pas seulement dans les scènes de boxe, bien au contraire, d'une façon tout à fait sobre, tout à fait remarquable. Et quant à Arlette Marchal, dans un de ses livres de souvenirs, un livre qui avait été écrit en particulier par... le texte avait été écrit par Marcel Berger, qui était un écrivain sportif et qui connaissait le sport, eh bien, il soulignait qu'il n'avait pas oublié les yeux pervenches d'Arlette Marchal.
Pascal Bouynic, en fait, en écho à ce film Toboggan, en effet, Carpentier va devenir un mondain, un homme du monde. Il y a une photo qui me touche beaucoup, moi, c'est, on le voit avec Charlie Chaplin devant l'hôtel de Claridge à Londres, où ils ont l'air à la fois tous les deux impressionnés l'un par l'autre, mais en même temps un peu complices. Il va devenir un homme raffiné, comme une orchidée finalement. C'est à la fois un boxeur, mais avec une grande bonté d'âme et une grande élégance. Carpentier, oui, c'est un homme du monde.
C'est un homme du monde, oui, c'est ce qu'il dit à la fin de sa vie. Il ne dit pas qu'il a été un boxeur, il dit j'aurais été un homme du monde ou quelque chose comme ça. Carpentier, non, son charme, on l'entend dans sa voix d'ailleurs, dans l'extrait que vous avez fait écouter là. Son charme est incroyable. Le début de son autobiographie, son auto-analyse, il parle de sa gaieté. C'est aussi une nature, c'est aussi, comme vous le disiez, c'est aussi une très 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 bonne nature. C'est quelqu'un qui a une intelligence, par exemple, qui est une intelligence de circonstance. Il n'a pas de, comment dirais-je, c'est pas un homme radical qui dit je combats comme ça ou comme ça. Il est capable Le combat que vous évoquiez, par exemple, il est capable de changer de technique par intelligence, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a une souplesse.
Il s'adapte.
Il s'adapte absolument. Mmh. Et donc, quand on voit les photos, effectivement, c'est un très 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 bel homme. La photo avec Charlie Chaplin, il feint de recevoir des... Enfin, moi j'en ai vu, il feint de recevoir des coups. Enfin, il est joueur aussi. Sa nature a forcément eu un impact très très grand sur la légende.
Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que quand on regarde Carpentier, par exemple à l'image, il y a à la fois ce qu'on peut apercevoir d'un grand boxeur, d'un combattant, et une grande bonté d'âme. Mais j'ai l'impression que ça traverse tous les portraits que vous avez dressés dans votre récit, comme si c'était la marque des grands boxeurs. C'est-à-dire qu'à la fois une férocité, parce qu'il faut monter sur le ring, il faut combattre, et en même temps quelque chose, une grande humanité chez tous ces grands champions du ring. Vous n'êtes pas d'accord ?
Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
Allez-y.
Enfin, non. Non, si on pense à Lamotta, par exemple, mm-hmm. on ne va pas aller dans la direction mm-hmm. de la grande bonté. On va aller plutôt dans quelque chose de christique, avec le péché, enfin quelque chose de beaucoup plus torturé, tourmenté. Carpentier, c'est pas ça du tout. Carpentier s'adapte. Carpentier a une... C'est drôle d'ailleurs. Vous l'avez dit, il vient du Nord, une famille très très modeste, et c'est sans aucun problème qui voit le prince de Galles, qui est reçu par les rois.
Il s'adapte tout le temps.
C'est quelqu'un qui a une... Il serait le parfait, d'ailleurs, de ce point de vue-là, il serait le parfait héros américain. C'est-à-dire un homme du commun qui est exceptionnel. Carpentier, c'est comme ça.
Un homme du commun exceptionnel.
Un peu.
Mmh. Jean.
Oui, je voudrais dire deux ou trois choses. D'abord, je voudrais souligner, vous l'avez bien fait tout à l'heure, le nom d'Alexis Filonenko, ce philosophe dont la passion était la boxe. Son histoire de la boxe, un livre consacré à Mohamed Ali, Cassius Clay. Bon. Et puis, je voudrais évoquer le nom de Jacques Marchand, parce que Jacques Marchand, un an après la mort de Carpentier, a publié mes 80 rounds, et c'était le livre qu'il avait préparé durant toute l'année précédente avec Carpentier. Et Carpentier, nous allions le voir dans ce petit appartement très modeste au 4e étage, non loin de la Madeleine, d'où il sortait tous les matins avec son teckel et où il rentrait tous les soirs paisiblement. Il allait de temps en temps rue de Rivoli chez un chemisier très singulier qui s'appelait Jean-Claude Daetz, et il y retrouvait Ladoumeg. Et ces deux anciens très très grands champions avaient des moments...
Athlète, Ladoumeg, un athlète.
L'athlète à la foulée célébrissime. Voilà. Et les deux hommes se retrouvaient avec bonheur, et Ladoumeg est mort le premier. Et donc... Cette modestie devant son propre destin, car c'est vraiment un destin que celui de Carpentier, c'est tout à fait caractéristique. Alors effectivement, moi je l'ai connu avec sa voix cassée parce qu'il avait une corde vocale en moins et qui était cette voix rauque, très particulière. Je lui ai fait visionner le match contre Dempsey, entre autres, et puis nous avions tels ou tels liens. C'était, encore une fois... d'une discrétion, alors qu'il avait traversé la vie aux côtés des plus grands, et d'une façon tout à fait simple, c'était tout à fait remarquable.
Quel souvenir vous en avez ? Est-ce que vous étiez impressionné par Carpentier, comme vous le voyez, Jean ?
Après, mm-hmm. non. Mm-hmm. Non. Si ce n'est que, justement, il était d'une modestie. Et effectivement, quand nous avons été l'interviewer avec Jacques Marchand, parce que j'y étais... Je connaissais certains détails sur ce qui avait entouré le 2 juillet 1921 qu'il avait lui-même oublié. Et ça l'intéressait beaucoup. Il disait « Ah mais oui, c'est vrai !» Donc, enfin, ça a été des rapports tout à fait simples. Bon, je ne dirais pas que nous étions des amis d'enfance, bien entendu. Mais, enfin, je l'ai connu et il est conforme au portrait que tous ensemble nous traçons.
On peut aussi dire que c'est aussi un grand champion européen. Il n'est pas que français, il incarne une Europe. Et dans des moments un peu troubles, je me disais peut-être qu'on pourrait réhabiliter ce genre de grand champion qui a traversé le siècle, qui fait figure de culture européenne.
Bon, alors nous voici lancés vers le 26 mai, l'oublions pas.
Mais oui, c'est important,
ne l'oublions
Jean.
Pas. Mais
c'est
effectivement, important. Il était reçu par le futur roi de Suède, il était une image.
C'est un imaginaire
d'une
européen.
Europe heureuse, si l'on veut. Oui. Effectivement, il a été l'Européen qui était capable de faire face. Aux Américains.
Oui, dans un rapport de
et
sport.
Je ne prononcerai pas le nom que je ne veux pas prononcer.
D'accord, très bien, parfait, parfait. Vous avez raison, Jean. Pascal, un mot là-dessus sur le côté figure d'un récit joyeux et glorieux en Europe à travers Georges Carpentier, par exemple.
Oui, ça me rappelle que tout au début de son autobiographie, alors je ne sais pas s'il a été aidé pour écrire, mais en tout cas le texte est vraiment très très beau. Et il y a un premier texte qui paraît en 1925, ou enfin très très tôt, il n'a pas encore
il
fait...
Il raccroche les gants en 26.
21, oui, bien sûr, il n'a pas encore...
Ma vie
voilà.
Des combats.
Ce texte est très très beau. Il parle de son goût du voyage, et finalement, il ne parle pas tellement de sa vocation de boxeur. Il dit voilà, quand je voulais voyager, je voulais aller... Et donc la notion de déplacement, la notion de... Il voulait aller combattre, évidemment, en Europe, puisque les États-Unis, il n'était pas question de d'y songer. Mais après, il est parti, bien évidemment, en Amérique.
Alors si nous évoquons les continents, il faut tout de même évoquer un des moments douloureux de la vie de Carpentier. C'est son match de septembre 1922 à Buffalo contre Battling Siki. Louis Fall dit Battling Siki.
Sénégalais, c'est ça?
Sénégalais, mais venu en France dans les bagages d'une Hollandaise qu'il avait vu plonger dans le port de Dakar pour ramasser quelques pièces. Et Battling Siki devient un boxeur, bat le champion de France Nils, et il va rencontrer Carpentier, parce que il faut tout de même que Carpentier combatte encore, mais qui lui opposait comme adversaire? On ne trouve personne. Et on trouve Battling Siki. Le match est gagné d'avance. Carpentier ne se prépare pas. Et puis, il est cueilli par une droite de Battling Siki à la deuxième reprise. Et ça va très mal se terminer. Il sera obligé d'abandonner lamentablement à la sixième reprise. Et pourtant, et c'est ça qui est frappant et qui justifie, entre autres, la belle émission d'aujourd'hui, il redeviendra populaire après avoir été un temps sifflé par les populaires.
Eh oui, évidemment. Pascal Wenig, un mot de conclusion?
Bah oui, non, là, c'est une histoire plutôt colonialiste, triste, plus. Oui, bien sûr, parce que Siki était venu en France contre son gré, par hasard. Mais effectivement, ça a été un. Je ne sais pas s'il s'en est remis, Carpentier, de cette histoire, de ce combat.
Si, il s'en est remis, et il s'en est remis aussi d'une triste histoire de casserole. Il avait une casserole, une transaction douteuse, il avait prêté gentiment son nom, et on le lui a longuement reproché. Mais il s'est remis, relevé de tout ça, et les Parisiens avaient oublié ces moments difficiles.
En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir pour raviver le souvenir de Georges Carpentier, un immense champion du XXe siècle, un champion européen. Je précise que vous pouvez lire Boxing Parade de Pascal Wenig aux éditions L'Arbalète Gallimard, et vous pouvez lire tout Jean Dury. C'est passionnant. Lisez tout Jean Dury. Sa littérature est passionnante. Merci à vous deux, en tout cas. Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir?
Eh bien, on ne commence pas avec un big up. Ou alors on commence avec un non-big up cette semaine, Colin. On commence avec une absurdité. Alors que dans une semaine, tout pile, nous serons le 5 mai, triste date anniversaire du drame de Furiani, la plus grande catastrophe du foot français, je vous le rappelle, puisque le 5 mai 1992, l'effondrement d'une tribune du Stade Corse causait 18 morts et plus de 2000 blessés. C'était lors d'un match de Coupe de France qui opposait Bastia à Marseille. Et bien aujourd'hui, 27 ans après, le collectif des victimes de Furiani dénonce le fait que des matchs soient encore joués ce jour-là. Voilà. Parce que donc, on a appris cette semaine que les matchs du championnat de France programmés ce jour-là ne seront visiblement pas reportés. Ce que le collectif souligne d'encore plus dingue, c'est que depuis 2015, sous l'impulsion à l'époque de Thierry Braillard, l'ancien secrétaire d'État au sport, la Ligue de football professionnel n'organise plus de matchs le 5 mai s'il s'agit d'un samedi. Mais là, le 5 mai tombe un dimanche. Et donc les matchs du championnat de France seront joués. Voilà. Donc si le 5 mai est un samedi, on respecte visiblement l'hommage aux victimes. Si c'est un dimanche, non. Donc moi, je trouve ça absurde.
Oui, effectivement, ça n'a aucun sens, cette histoire. Une pensée aux victimes de ce drame de Furiani il y a 27 ans. Mmh. On continue, je veux dire, avec un rappeur canadien qui pourrait aussi être un chat noir.
C'est ça. Oui, alors rien d'aussi dramatique que Furiani, tout doux quand même. La poisse, plutôt, on va dire. La poisse que porterait Drake au footballeur. Avec l'élimination en Ligue des Champions de la Juventus de Turin face à l'Ajax d'Amsterdam, par exemple, ce qu'on appelle la Drake Curse, la malédiction de Drake, a encore frappé. Eh oui, je vous explique. À chaque apparition du rappeur canadien avec un footballeur ou le maillot d'une équipe, celle-ci est immédiatement comme ensorcelée et elle s'incline face à son adversaire. Donc il y a de nombreux exemples. Et récemment, cette malédiction a même touché le championnat français. Contre Lille, il y a 2 semaines, Paris, où c'était fait étrier, on s'en souvient tous, bien sûr. 5-1 oui, par 5-1. Une équipe magique de Lille. Oui. Eh bien, un jour avant le match, le latéral gauche du PSG, Lévin Kurzawa, avait posé avec le chanteur.
Catastrophe.
Alors, ah, catastrophe. Et du coup, alors cette semaine, très drôle, le club italien de l'AS Roma a demandé à ses joueurs de ne pas faire de selfie avec Drake. Et à Drake, grazie de ne pas les supporter. Et alors moi, je suis pas particulièrement superstitieuse, hein, mais c'est vrai que si les joueurs du LOSC aussi pouvaient éviter d'approcher Drake de trop près, dans le doute, voilà, ça nous arrangerait. Voilà. Bon, et sinon, Colin, rien à voir, quel est le meilleur arbitre de Ligue 1?
Eh ben, j'ai envie de dire Clément Turpin.
Et tu fais bien. On rappelle que c'était le seul arbitre français sélectionné lors de la dernière Coupe du Monde. Donc bref, c'est quelqu'un qui pèse, Clément Turpin. Et les amateurs de foot le connaissent bien. Ils connaissent bien son nom à Clément Turpin. Tellement bien que cette semaine, notre arbitre de Ligue 1 a failli se retrouver en prison parce que des trafiquants de drogue ont usurpé son identité et utilisé une voiture immatriculée à son nom pour des go-fast. Donc c'est les allers-retours, vous savez, pour des transports de drogue entre la France et la Belgique.
Le pauvre.
Voilà.
Ah, c'est horrible, c'est horrible.
Ah, bah, il a dû être surpris, oui, effectivement. Et alors, il paraît que le gang de trafiquants interpellés, ils sont tous visiblement fans de foot, puisqu'il y a d'autres faux noms issus du milieu du foot qui sont utilisés pour se couvrir. Donc, eux, ça ne les a pas servis, mais nous, ça nous aura fait rire.
Absolument.
Voilà. Et en parlant de noms de footballeurs, est-ce que tu te souviens aussi, Colin, du footballeur Raphaël van der Vaart?
Oui, milieu de terrain néerlandais passé par l'Ajax Amsterdam et le Real Madrid.
Oh là là, quelle star, quelle mémoire, ce Colin.
Merci beaucoup.
Tout à fait. Et bien, aujourd'hui, il a 36 ans, notre Raphaël, et le Batave, qui est retraité depuis seulement novembre 2018, est déjà, j'ai envie de dire, passé professionnel dans un autre sport, les fléchettes. Et ouais, van der Vaart s'est reconverti dans le jeu de fléchettes et il tentera, accompagné de son frère, de soulever l'Open du Danemark les 4 et 5 mai prochains. C'est assez hallucinant. Mmh. Donc voilà, bravo à lui, Raphaël van der Vaart.
Une reconversion donc inattendue pour ce joueur batave, mais dans laquelle on lui souhaite le meilleur.
Bah, bien sûr.
Et pour finir, Joy, alors?
Eh bien, pour finir, mon conseil culturel porte le nom de notre émission. Je suis tombée dessus un peu par hasard, figurez-vous, il s'agit du film L'œil du tigre, eh oui, de Raphaël Pfeiffer, qui vient de sortir en DVD. L'œil du tigre, en fait, c'est l'histoire vraie de Laurence Dubois, une Française devenue aveugle qui rêve de devenir championne de Viet Vo Dao, un art martial vietnamien. On écoute la bande-annonce.
Ouais, non, attends, je suis pas là, t'es au fond du...
Quoi?
Parce que j'ai un truc important.
Vous êtes donc malvoyante?
Non-voyante.
Non-voyante? C'est quoi la différence?
Bah, malvoyant, tu vois encore un peu, et non-voyant, t'as plus de courant. J'ai pas été aveugle tout le temps.
Et tu faisais quoi avant?
J'avais pas le droit au sport. J'avais fait des collements de rétine. Et puis, bah, quand j'ai tout perdu, on a trouvé des techniques, et puis...
Lolo, là, je vois que t'es pas du tout concentré. Là, au championnat de France, c'est pas le deuxième tour.
Ah, hein. Oh, je fais plus haut, là.
Tu fais plus quoi?
Je suis fatigué.
Je crois en toi.
Puis moi, si j'en suis là, c'est grâce à tous mes copains. C'est une grande famille, et je suis fière d'être là pour eux.
On a sélectionné deux personnes pour la finale.
J'ai une chance.
Voilà. Donc c'est un documentaire original et attachant qui vous fera découvrir, si vous ne la connaissez pas, Laurence Dubois, une femme hors du commun, non-voyante donc, comme elle le dit elle-même, qui vit en Mayenne avec son mari agriculteur et ses deux fils. C'est une athlète qui n'a rien à envier à Rocky Balboa, croyez-moi.
Oui, et la bande-annonce sonore voilà. Ne dit rien des images, mais c'est vrai que ça a l'air fascinant ce film. Elle a l'air fascinante, cette Laurence Dubois, une héritière de Rocky.
Exactement.
Dans sa manière de se battre pour être championne malgré son handicap, elle est donc aveugle, on le rappelle. Donc regardez L'œil du tigre, le documentaire de Raphaël Pfeiffer ou le destin incroyable de Laurence Dubois.
Et écoutez L'œil du tigre
et
aussi.
Et écoutez L'œil du tigre, voilà. Merci beaucoup, Joy, à la semaine prochaine.
Bye.
Et voilà, cette 34e émission, notre saison 4 a été coachée, bien sûr, ce soir par l'incontournable H2M. Henri Marc Mutel, merci beaucoup. Marco, assisté ce soir à la technique de Julien Dumont, merci beaucoup. Julien, merci à toute l'équipe de L'œil du tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Merci à Thierry Yvain pour les scuds qu'on n'a pas passé ce soir. On a passé Mathieu chez Didier, mais on n'a pas eu le temps parce qu'on était passionnés par Georges Carpentier. Donc désolé pour ce disque, vous l'écouterez une prochaine fois. Merci à Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. On vous retrouve évidemment sur Facebook, Twitter et sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre destin du XXe siècle, un destin à la fois tragique et extraordinaire, celui d'Alfred Nakache, surnommé le nageur d'Auschwitz, l'un des grands champions français de la natation des années 30 et 40. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans l'œil du tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.